Ce matin, comme le dimanche passé, je voudrais que nous puissions encore continuer avec l'exhortation en faveur du culte personnel. Et je voudrais prendre ici un autre appui, un autre texte pour prolonger cette réflexion. Mais avant cela, nous allons d'abord prier. Seigneur notre Dieu, tu es venu jusqu'à nous. Tu as quitté ton trône de gloire, ton ciel de gloire. Tu es venu pour servir. Tu nous as appris ce que c'est que le service et tu as dit, vous aussi, faites de même. Soyez mes serviteurs, soyez les serviteurs de vos frères et sœurs. Notre Dieu, nous avons tant à apprendre, tant à connaître et à découvrir, Seigneur. Nous avons envie de te plaire, de marcher dans tes voies, mais nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, nous aider. Que tu viennes encore nous encourager, que tu viennes encore nous montrer le chemin. Laisse qu'à travers ce partage de ce matin, un petit pas en plus, dans cette détermination de te servir, soit encore fait. Et qu'ainsi, petit à petit, pas à pas, nous allions de plus en plus dans un service engagé pour toi, dans un service qui reflète notre passion pour toi. Donne-nous cette grâce, fais-nous, Seigneur, cet honneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible et lire l'évangile de Jean. C'est un dialogue, c'est une conversation que nous connaissons. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose que nous connaissons. C'est cette discussion que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Donc, c'est Jean au chapitre 4, du verset 19 au verset 26.
C'est ça que vous avez, hein?
Ouais. Voilà Jésus en conversation avec la femme samaritaine. Et j'ai pris la conversation en plein milieu dans cette deuxième partie de la conversation qui concerne plutôt une discussion qui a tourné vers une discussion plutôt théologique. Ce n'est plus une discussion en rapport avec la cure d'âme, avec la relation, le salut de cette dame. C'est plutôt avec des questions qui touchent à la théologie, au culte, à la manière de à la célébration. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, donc les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, évidemment, ceux qui veulent vraiment que nous commentions ce texte vont être un peu tristes ce matin parce que c'est un texte tellement riche que je ne pourrais pas le commenter dans son contexte précis, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça, c'est mieux dans une étude biblique. Ce matin, je voulais juste prendre dans cette conversation, dans cette discussion, un élément qui puisse nous aider à encore mieux comprendre ce que le culte personnel, les enjeux du culte personnel. Vous souvenez, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là la semaine passée, nous avions pris Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2, pour pouvoir parler du fondement du culte personnel. Et j'avais expliqué que le culte personnel est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental pour la marche d'un chrétien, pour la vie d'un chrétien. Le culte personnel, c'est plus que simplement ce moment d'intimité que je prends avec Dieu. C'est plus que simplement ce petit moment que je prends. Bien sûr, ce moment est déjà très important. Il faut bien, en tant qu'humain, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un temps précis, un moment précis où nous faisons quelque chose avec Dieu. Le culte personnel, c'est ce moment où je viens dans la présence de Dieu, où je vis dans l'intimité de Dieu, où je viens comme un enfant qui vient prendre sa place d'enfant dans le cœur de Dieu et comme Dieu qui vient prendre sa place de père dans mon cœur d'enfant. C'est un moment où je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Ce moment est important, je l'avais expliqué en disant que c'est un moment important parce que c'est un moment qui nous aide dans les moments difficiles. On verra encore cela quand je vais donner quelques illustrations à ce sujet. Mais déjà, la fois passée, j'avais déjà donné cet exemple de David devant Goliath qui va là affronter publiquement devant les deux armées qui va affronter Goliath, mais qui va expliquer que si aujourd'hui il est capable de le faire, c'est parce que dans son intimité, dans sa vie privée, dans le secret de son existence, là où il n'y avait que Dieu et lui, il avait déjà appris à combattre. Il avait déjà gagné des victoires. Face aux petits animaux, enfin aux animaux, aux lions, aux ours qui attaquaient le petit bétail de son père dont il était le berger, il s'est battu et il a appris à les vaincre. C'est pourquoi publiquement, devant tout le monde, Goliath ne l'impressionne pas. Il a appris à connaître la puissance de Dieu qui agit à travers lui. Ce matin, j'aimerais apporter une autre dimension. On ne va pas revenir sur Romains chapitre 12. Il y avait bien sûr beaucoup de choses à dire. Mais peut-être apporter une autre dimension avec ce texte de la femme samaritaine et que je voudrais vraiment ajouter aussi à ce fondement du culte personnel. Dans ce texte, il se passe quelque chose dans cette ville de Sichar, qui est une ville qui fait partie de la Samarie, et devant ce puits de Jacob, cette femme qui vient puiser l'eau et qui s'entretient avec Jésus. Elle est à l'aise de le dire parce qu'elle constate que Jésus est un prophète. Elle dit, Seigneur, tu es un prophète. Donc si tu es un prophète, ça veut dire que je peux te poser plein de questions, je peux essayer d'y aller pour m'éclairer aussi personnellement sur des tas de choses que j'aimerais bien comprendre. Et la voilà qui va alors parler de l'adoration et qui va dire, ben vous dites qu'on adore, on doit adorer à Jérusalem alors que nous concevons qu'on adore ici sur cette montagne. Je ne vais pas trop vous expliquer les choses, mais simplement en résumé, d'où vient le problème? C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, les Samaritains sont restés attachés à la loi de Moïse, aux 10 livres, aux 5 livres de Moïse. Et pour eux, donc, ils sont partis de ce qui s'est passé au temps de Moïse, avec la convocation, l'appel qui a été fait sur le mont Garizim, qui est donc là-bas en Samarie. Et pour eux, ça reste le lieu de l'adoration. Mais évidemment, pour les Juifs qui ont toute la révélation, c'est-à-dire la loi, donc les 5 livres de Moïse, plus les livres, les prophètes, donc les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs, donc tous les livres des rois, etc., tous les livres historiques et les autres. Et puis en plus, ils ont les écrits. Alors eux, ils ont une révélation beaucoup plus grande et savent que dans le plan de Dieu, c'est à Jérusalem que se trouve le lieu d'adoration. Même chose, quand Jésus affirme que le salut est juif, c'est parce que Jésus a bien suivi, évidemment, toute la révélation dans son entièreté, alors que les Samaritains, à cause de la dispersion, ont été bloqués uniquement aux 5 livres, au Pentateuque, donc. Parenthèse que je ferme tout de suite. Ce qui est frappant, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on parle d'adoration ici. L'adoration, adorer ici, c'est littéralement, ça veut dire littéralement, rendre un culte. Rendre un culte à Dieu. C'est ça le sens du mot adoration ici. Et donc, le mot adoration et le mot culte sont des mots associés. Je ne dis pas qu'ils sont synonymes. L'un ne veut pas dire l'autre, mais l'un fait penser à l'autre. L'un rappelle l'autre, ils se renvoient dans leur signification. Et ce matin, ça nous permet de pouvoir aborder le culte à travers cette notion de l'adoration. Que dit Jésus au verset 22 ? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Jésus affirme que l'adoration, ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas à Jérusalem Mais nous, enfin, les chrétiens, les croyants, ceux qui sont attachés à la vraie, à la parole, ils savent exactement de quoi ils parlent. Ils savent que le salut vient des Juifs, parce que Dieu a voulu se servir du peuple juif pour pouvoir avancer avec la connaissance du salut. Et le verset 23, les vrais adorateurs adoreront en Dieu, non pas sur une montagne, ni dans un temple, mais en esprit et en vérité. Jésus précise ensuite, et ça c'est très intéressant, au verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc non seulement il dit qu'on n'adore pas dans un lieu, mais il dit ensuite, Dieu est esprit. Et ça, ça montre et ça nous aide à mieux comprendre encore la notion de l'adoration et du culte, à savoir que Dieu n'est pas dans un lieu déterminé. Dieu est spirituel. Il ne se trouve pas dans un bâtiment. Il se trouve dans le cœur. Il se trouve dans un rapport spirituel. Et le culte est un acte spirituel. Un acte spirituel qui peut se faire à n'importe quel endroit, n'importe où. C'est un rapport de cœur. De cœur qui se parle. Voyez-vous, c'est important de noter cet élément parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de gens mettent plus de l'importance, quand on parle du sacré aujourd'hui, on met de l'importance dans un bâtiment, n'est-ce pas? On aime bien être dans un endroit et donner à cet endroit un pouvoir, une espèce de dimension qui nous rentre dans le rapport avec Dieu. Mais nous savons, nous, depuis longtemps que c'est un acte spirituel où nous avons à rencontrer Dieu dans notre cœur. Deux éléments importants ici qui aident à comprendre ce que le culte, comment entrer dans le culte personnel. Deux éléments, adorer en esprit et en vérité. La disposition du cœur. La disposition du cœur est importante. Non pas un lieu, mais notre cœur. Le désir de notre cœur d'être dans la présence de Dieu. Et c'est spirituellement qu'on est dans la présence de Dieu. Lorsque on réalise sa présence, n'est-ce pas Jésus qui va dire, va dans le lieu secret. Là, tu es dans le secret, ferme ta porte. C'est là que tu vas te retrouver avec Dieu. C'est dans mon cœur, dans ce cœur disposé à converser avec Dieu, à dialoguer avec Dieu. Un cœur qui est dégagé de tout ce qui peut l'empêcher de pouvoir parler avec Dieu. En esprit, mais aussi en vérité. Et je suis toujours frappé par cet élément, la vérité. J'essaie de faire des recherches sur c'est quoi ça en esprit et en vérité. En vérité, qu'est-ce que ça peut avoir comme portée? Nous connaissons tous ce que c'est que la vérité. On ne va pas revenir sur ça. Mais dans ce texte particulièrement, il s'agit vraiment de cette idée qui est derrière. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre un vrai billet et un faux billet. On ne sait pas toujours bien le percevoir, n'est-ce pas? Un faux billet ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai billet. D'ailleurs, s'il ne lui ressemblait pas, les gens ne seraient pas abusés, n'est-ce pas? Les gens ne se tromperaient pas. Un faux billet ressemble exactement au vrai billet. Mais l'un est vrai et l'autre est faux. L'un est le billet qui a été conçu dans les conditions normales, l'autre n'est qu'une copie du vrai. Adorer, c'est cela aussi. Adorer en vérité, c'est cela aussi. C'est rendre le culte avec un cœur vrai, un cœur transformé par la vie nouvelle en Christ. Un cœur qui est non pas faux, n'est pas une copie, non pas une imitation, mais un cœur qui est vraiment à Dieu, qui est véritablement immergé dans la vie de Dieu, dans le cœur de Dieu. Un cœur qui est sincère, un cœur qui est sanctifié et constamment sincère devant Dieu. Et c'est important ce matin de le comprendre, pour comprendre quand je rentre dans mon culte personnel, j'ai à interroger l'état de mon cœur. J'ai à interroger l'état de mon cœur pour savoir si ce cœur, il est vraiment connecté avec Dieu. si c'est un cœur qui est vraiment, qui appartient vraiment à Dieu. J'ai à interroger mon cœur quant à est-ce que dans ma vie, y a-t-il des choses qui m'empêchent d'être la vraie, de donner la vraie image de Dieu dans ma vie. Évidemment, ça sous-entend l'idée que le vrai culte personnel ne peut être le fait que d'un enfant né de nouveau, un enfant de Dieu. Lui seul peut rentrer dans cette présence de Dieu, dans cette dimension de Dieu et adorer. Adorer, c'est-à-dire prendre sa place de créature, de pécheur converti, et donner à Dieu sa place du créateur, de celui qui mérite tout notre respect. Ce matin, je voudrais vraiment partager cela avec vous, en rapport bien sûr avec ce qu'on avait déjà dit avec le texte de Romains, pour que nous puissions comprendre que le culte personnel est quelque chose de très important pour nos vies, pour notre rapport avec Dieu, mais quelque chose qui doit se faire aussi dans le désir véritablement d'avoir un dialogue de cœur à cœur, un cœur vrai avec un Dieu grand et puissant. Et ce matin, peut-être que c'est intéressant de nous interroger sur notre façon de faire dans notre culte personnel. Le culte personnel m'invite, non pas, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas simplement un moment dans ma vie, dans ma journée. Quand on regarde bien, c'est un moment dans ma journée, mais qui va être prolongé tout au long de ma journée. Je ne peux pas me présenter devant Dieu en disant, Seigneur, voilà comment je suis, confesser mes péchés, les regretter, etc. Et puis dès que j'ai terminé le moment de prière que j'ai avec Dieu, boum, je reprends ma vie et je fais n'importe quoi. Ce temps est un temps qui va se prolonger sur ma journée. Va se prolonger pour le reste de temps jusqu'au moment où il y aura un autre moment de culte. C'est un moment où je m'équipe, je m'arme. Je suis comme un avion qui prend les armes pour aller bombarder, par exemple. Enfin, c'est pas un bon exemple. Allez, je le retire. C'est pas bien. On n'est pas des guerriers. Mais c'est un moment où je prends des batteries, je recharge des batteries pour être fort, pour être capable de pouvoir assumer l'ensemble de mes responsabilités en tant que chrétien. Le culte personnel est vraiment quelque chose d'important parce que ça nous permet de pouvoir être en face de nos responsabilités quotidiennes. Prenons donc le temps. C'est une demande que je vous fais. Prenons le temps. Le temps, selon notre emploi de temps, de passer du temps avec Dieu. Le culte personnel, c'est dans la prière, nous le savons. D'ailleurs, c'est l'expression par excellence du culte personnel, c'est la prière. Mais ce n'est pas que la prière. C'est aussi tout le travail que je fais à titre personnel pour développer ma connaissance de la parole de Dieu. Le temps que je prends pour lire la Bible, le temps que je prends pour la méditer, le temps que je prends pour l'étudier à titre personnel. Je ne parle pas du temps que je prends avec les autres dans l'église, mais je prends le temps que je prends à titre personnel. C'est pas seulement le temps que je prends. Quand j'ai prié, et particulièrement quand j'ai prié pour quelqu'un, c'est le temps que je prends aussi à prendre ses nouvelles. Je prie pour une sœur malade ou un frère qui a des difficultés. Je ne me contente pas que de prier, n'est-ce pas? Je vais aussi prendre mon téléphone. Comment ça va? J'ai prié pour toi. Comment ça va maintenant? Ça fait partie du prolongement du culte personnel. Vous voyez, le culte personnel, ça ne s'arrête pas que à simplement un moment. Ça devient notre mode de vie. Ça devient notre style de vie. Et quelque part, c'est cela que ce matin, je vais mettre devant nos yeux. Pas simplement la prière, la parole de Dieu, mais aussi le geste fraternel que nous avons à faire, le service que nous voulons rendre à titre personnel. C'est vrai qu'on a difficile à dire, voilà, on va s'organiser, on va avoir le culte personnel. Beaucoup de gens se disent, ouh, si je dois m'organiser, ça doit me prendre une heure par jour, deux heures par jour, c'est trop, j'ai pas ce temps-là. Mais je pense qu'on peut... C'est pas le temps qui compte, c'est la qualité du moment que je passe avec Dieu. C'est ça qui compte. je peux vivre 20 minutes de culte personnel, intense, profond. Et je peux vivre 2 heures de culte personnel dans la distraction la plus grande. Dérangé, perturbé, sollicité, soi-même pas trop concentré, etc. On peut aussi vivre ça. Essayons de trouver du temps, même s'il faut fractionner les moments, même s'il faut dire, je prends 20 minutes ici pour lire la Bible et vraiment l'étudier, prier pour ça. Et si je peux dire, je prends 15 minutes ici pour prier, vraiment. Je prends ici autant de, je sais pas moi, combien de temps pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour les autres. Pas nécessairement qu'on prenne tout un temps en concentration, mais on peut les fractionner. Et j'aimerais peut-être, c'est ça aussi qui m'a poussé un peu à cette exhortation du culte personnel. Qu'est-ce que je peux demander? Je sais que vous avez beaucoup de sujets de prière. Mais en ce qui concerne le culte personnel, j'aimerais peut-être juste pour rejoindre les deux textes que nous avons mis en avant ici, à la fois le premier texte qui était donc la fois passée, Romains 12, 1 et 2, et aujourd'hui avec ce texte sur la discussion avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans un moment de prière, un moment de culte personnel? C'est le moment où je peux demander à Dieu, je peux offrir à Dieu mon corps. Seigneur, je t'offre mon corps. Mon corps comme un instrument pour ta gloire. Un instrument, un sacrifice, quelque chose que je veux te consacrer pour que toi tu puisses l'utiliser selon ta volonté. Et à travers mon corps, je t'offre ma vie. Je suis là pour toi. Est-ce que c'est aussi des choses que nous disons dans nos prières? Est-ce que, toujours en rejoignant le texte de Romains chapitre 12, est-ce que je dis, Seigneur, aide-moi à refuser le monde, à rejeter l'influence de ce monde. Avoir ce discernement, cette intelligence spirituelle pour dire, là, c'est le monde qui me sollicite. Là, c'est un danger pour moi. Ça, je ne veux pas, parce que ça, c'est le monde. Ça, c'est quelque chose qui vient me souiller en quelque sorte, me dépouiller en quelque sorte, me détourner de Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider à avoir les yeux ouverts. Moi, j'ai commencé cette expérience très jeune où je suppliais Dieu que dans tous mes choix, dans tout ce que je fais, je n'ai pas à le regretter. Que ça soit quelque chose qui soit éclairé par Dieu. Et elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette sagesse de pouvoir comprendre où je suis et ce que je dois faire. Et ça faisait partie de ma prière. Ça, tous les jours. Seigneur, aide-moi aussi à ça. Et quelque part, je bénis Dieu parce qu'il m'a évité beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Demandez à Dieu de nous aider à le laisser nous transformer. Nous avons dit, le Seigneur nous transforme, il transforme nos vies. Mais il ne transforme pas par nos propres moyens. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas nos possibilités personnelles. Ce n'est pas parce que je suis plein de bonne volonté que je vais changer. Vous savez, moi j'étais colérique avant. Et c'est pas parce que j'ai dit, je décide, je suis plus colérique, que ça a changé. Bien au contraire, vous voulez voir comment la chair, comment le diable, comment le monde a un pouvoir sur nous. Essayez de changer votre caractère. Essayez de dire, voilà, vous étiez colérique, de dire, je ne suis plus colérique. Je vais essayer d'être plus être colérique, je vais être le type le plus gentil. C'est à ce moment-là que vous allez être réalisé à quel point c'est pas possible. Il y a une loi en vous qui vous combat. Mais lorsqu'on se laisse transformer par le Seigneur, lorsque c'est par le Saint-Esprit que Dieu vient changer nos cœurs et nos vies, je vous assure, vous ne vous reconnaissez plus après. On se demande, mais j'étais pas comme ça avant. Mais comment apprendre? Quel est le chemin par lequel je dois passer pour que le Seigneur me transforme? Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de beaucoup de mauvaises pensées. Nous sommes remplis de beaucoup d'égoïsme. Quel espace? Comment laisser le Saint-Esprit nous transformer? Il y a des gens, après 10 ans, après 20 ans de vie spirituelle, ils sont toujours en train de se battre avec les mêmes problèmes. Comment faire pour que quelque part, ma vie change? Une des clés dans mon culte personnel, c'est cette prière. Seigneur, aide-moi à te laisser me transformer. Non pas moi par ma force, mais moi être juste un facilitateur. Quelqu'un qui facilite ton action dans ma vie pour que je change. Après tout, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de Gaston. C'est le fruit de Georges. Non, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit en moi qui manifeste sa personnalité à travers moi. Ça fait partie de la prière que nous pouvons demander. Seigneur, aide-moi à te laisser me transformer. Aide-moi à briser toutes mes résistances personnelles. Ces choses qui font que, non, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est moi, c'est ma vie. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de parler tu. Ils disent toujours je. Vous avez remarqué ça? Il y a des gens qui ne savent pas parler des autres. Hein. Ils parlent toujours d'eux-mêmes. Je. Vous avez remarqué aussi une autre chose. Aujourd'hui, dans nos conversations, moi je suis toujours frappé par ça. Salle de prof, on commence à parler. Ah, ce matin, je n'ai pas su dormir. Mon enfant était malade. Je dis à une collègue. La collègue dit, ah, ce matin, j'ai été pris dans les bouchons. Et l'autre vient, ah, ce matin, mon chat s'est échappé de la maison. Mais nous sommes trois, personne n'a écouté l'autre. J'ai dit ce que moi j'avais à dire, l'autre a dit ce qu'elle avait à dire, l'autre a dit ce qu'elle a dit. Aucune rencontre, aucun lieu de rencontre. Pourquoi? Parce qu'il existe en nous ces résistances fortes, l'orgueil de la vie. Nous sommes fiers de nos vies, nous voulons que nous soyons entendus, que nous soyons connus, que nous soyons célèbres, que nous. C'est une résistance qu'il faut briser pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos vies et nous diriger. Mais comment je vais le faire? Je n'ai pas de recette. Je ne vais pas vous dire, levez-vous le matin, faites ça, ça, ça. Non, je n'ai pas de recette. Mais la seule recette que je sais, c'est que si je commence à demander à Dieu de m'aider à lui permettre de me transformer, si je commence à demander à Dieu de me montrer tout ce qui bloque, pour que lui vienne transformer ma vie. Si je commence à le supplier dans ce sens-là, réellement le Seigneur va agir. Il va me montrer ce qui me bloque pour que j'y renonce, que je le confesse, que je le refuse et que lui vienne m'aider et me transformer. Demandons à Dieu de devenir ses vrais adorateurs. Des adorateurs qui réalisent sa présence dans leur vie personnelle. Vous savez, quelqu'un qui vit le Seigneur dans sa vie personnelle, ça finit par se voir. Vous connaissez le témoignage de Sadhu Sundar, n'est-ce pas? Cet homme, cet Indien qui s'est converti, il arrivait dans certains villages, on pensait qu'il était Jésus. On disait, si tu ne l'es pas, ben, tu lui ressembles très fort. Parce que c'était un homme qui avait voulu s'imprégner de la présence de Dieu dans sa vie. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu d'être ces vrais adorateurs qui vivent sa présence et qui le manifestent, qui vivent un cœur sincère, un cœur sanctifié. On ne doit pas seulement prier pour nos problèmes et nos fardeaux. Notre intercession des autres ne doit pas seulement avoir pour but la solution à leurs problèmes. Non! Nous ne sommes pas là que pour prier pour la misère de X, Y, Z, que le Seigneur agisse là-dessus. Oui, on est là pour ça, mais pas seulement. Notre intercession doit avoir aussi pour enjeu le royaume de Dieu, l'avancement du règne de Dieu dans le monde. Seigneur, je prie pour Matthieu qui a des difficultés dans tel domaine, afin que tu le bénisses, que tu le sortes de là. Seigneur, je te supplie de le faire parce que à travers cela, Matthieu pourra comprendre qu'il a à se donner encore à toi et qu'il a encore à te glorifier. Je te prie que on a aussi cette option que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Combien de fois nous ne pleurons pas pour des sujets des gens, simplement en demandant l'intervention de Dieu, mais sans plus. Nous devons viser aussi le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans la vie de ceux pour qui nous prions, mais aussi à travers la prière, le règne de Dieu dans le monde autour de nous. Et c'est ce que Jésus faisait. J'aimerais juste prendre cet exemple-là. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Ah, oui, ici c'est aveugle. Alors, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus avait cette vision-là dans son intercession, de pas seulement prier pour la solution des gens, mais à travers cela, pour l'avancement du royaume de Dieu. Toi, affermis mes frères, affermis tes frères. Ce moment d'intimité avec le Père était aussi la source de la force de Jésus. Jésus était régulier dans la culte personnelle. Tous les jours, il passait des heures et des heures et des heures devant le Père. Tous les jours. Et ces moments étaient les moments qui le rendaient fort pour la suite de sa journée. Il y a un autre homme qui s'appelle Martin Luther King, je ne sais pas si vous connaissez. Lui disait toujours que quand j'ai une journée super chargée avec beaucoup de défis, plus j'ai les défis, plus je passe du temps dans la prière. Et croyez-moi mes amis, ce n'était pas du tout parce que il pensait qu'avec le temps, il va avoir plus de force. Loin de là, il vidait son angoisse. Vous voyez ce que je dis? Il savait qu'il allait être tabassé par les militaires, les soldats. Il savait qu'on allait l'insulter, qu'on allait faire ceci, on allait faire ceci, qu'il allait avoir des dégâts dans les marches qu'il allait organiser. Il en avait peur. Il en avait peur, il redoutait ces moments-là. Il savait que ça allait être dur. Et parce que c'était dur, parce que c'était trop douloureux pour lui, eh bien, il passait le temps dans la prière jusqu'à ce qu'il se relève confiant. Et il pouvait y aller. Il suppliait Dieu. J'ai lu parfois certains de ses mémoires. Il disait, je supplie Dieu, Seigneur, donne-moi de ne pas répondre méchamment. Donne-moi de ne pas dire une méchanceté quelconque à ce soldat qui va me frapper, qui va me blesser, qui va m'humilier. Donne-moi de rester toujours avec ta parole, de me souvenir de textes qui vont amener cet homme à pouvoir comprendre que je vise la paix, que je suis un chrétien. Il passait du temps à cela. Je suppose aussi que Jésus, c'était aussi eu en partie cela aussi, son travail. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Regardez à Gethsémané, il va prier, il va passer du temps dans la prière. Quand est-ce que Jésus va arrêter son temps de prière? C'est quand il va être sûr qu'il est prêt. Le culte personnel est quelque chose de très important. Et vous savez, sans la prière, nous sommes fragiles. Je veux juste qu'on regarde ce texte avec Matthieu chapitre 26, verset 41. C'est que Jésus dit à ses disciples, il leur dit, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est la réalité. C'est notre réalité. La prière dans le culte personnel est quelque chose d'important parce que sans cela, sans ce culte personnel, sans ce temps que nous donnons en privé, avec Dieu, nous nous affaiblissons et nous perdons notre force. C'est vrai, il faut de la discipline personnelle pour vivre le culte personnel. Il faut vraiment de la discipline. Mais cela vaut la peine. La discipline est nécessaire pour que nos vies soient centrées en Christ. Autrement, elles seront centrées sur nos problèmes matériels. Elles seront centrées sur toutes les réponses qu'on doit donner par rapport à la vie de tous les jours. Et Dieu seul sait à quel point nous sommes sollicités dans la vie de tous les jours avec plein de problèmes. Mais lorsque je me discipline pour le culte personnel, alors je centre ma vie en Christ. Et j'apprends à mourir dans la mondanité, à mourir de la mondanité, de mourir dans cette conception que nous avons de la vie où nous faisons face à nos problèmes, on oublie Dieu. Dieu est toujours relégué aux oubliettes. Que ce matin, ce temps soit pour nous tous un temps où nous voulons vraiment nous redécider. Peut-être que vous êtes déjà bien fidèle dans votre propre culte personnel, et c'est très bien, peut-être pas, mais j'aimerais juste rappeler combien c'est important de s'engager dans le culte personnel. Ça nous permet de connaître Dieu, de connaître sa volonté, de savoir discerner, de savoir ce qui est agréable à Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui on parle des extrémistes djihadistes musulmans, des gens qui agissent sans connaître même le vrai visage de leur propre Dieu, mais ça vient facilement lorsque je ne prends pas du temps à apprendre à connaître Dieu. Alors je commence à agir au nom de Dieu, je fais des choses pour Dieu, fait que Dieu ne me demande même pas du tout. Que ce matin, ce soit un moment de réflexion, et pourquoi pas, de nous réorganiser, de mettre en place un programme qui nous permet de pouvoir vraiment passer du temps avec le Seigneur. Si vous avez besoin des détails, moi en général, vous avez compris, mon système, il est simple. Moi, je ne viens jamais en vous disant, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Parce que pour moi, je me suis engagé dans la conception de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus des devoirs. Tu dois. Mais il s'agit de comprendre et d'être conséquent avec ce qu'on a compris. Maintenant, s'il y a des gens qui ne savent pas se retrouver et qui ont besoin quand même de détails, de savoir qu'est-ce que doit faire, comment faire un bon programme, etc., venez me trouver. Je me ferai un plaisir de partager tout ce que moi j'ai aussi reçu du Seigneur. Et si vous avez besoin de faire un programme, de mieux saisir comment vivre votre culte personnel, parce que dans une prédication, on ne sait pas tout répondre, venez, à ce moment-là, moi je veux bien. Mais ceux qui ont bien compris, alors que le Seigneur vous aide à œuvrer dans ce sens-là. Prions. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as donné ta parole, qui nous aide à nous retrouver, à nous orienter, à mener notre vie en toi. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est notre paraclet, notre partenaire, et grâce à qui nous pouvons, Seigneur, non seulement comprendre les vérités bibliques, mais aussi discerner nos chemins et nos voies. Aide-nous à développer le culte personnel et que cela rejaillisse dans notre vie communautaire. Cela rejaillisse dans notre témoignage de tous les jours avec les gens autour de nous. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Je te fais cette prière au nom de Jésus. Amen.